Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Des centaines de femmes gilets jaunes dans les rues de Paris, Toulouse, Saint-Étienne ou Rennes hier. Une manifestation inédite pour tenter de donner une image plus pacifique du mouvement qui secoue la France depuis un mois et demi. Elles ont défilé dans le calme pour souligner aussi que les femmes sont en première ligne quand il s'agit de précarisation et de discrimination. Et oui, la lutte pour l'égalité n'est pas terminée en France. En Islande, la place de la femme dans la société est probablement plus avancée qu'ailleurs. L'élection d'une femme en politique remonte à 1908 au municipal. Reportage à Reykjavik de Jérémy Richard.
Katrín Jakobsdóttir est aujourd'hui la troisième femme dirigeante d'Islande, un pays qui truste depuis 9 ans la première place du Forum économique mondial sur l'égalité des sexes. Et si la société islandaise est plus égalitaire qu'ailleurs, il faut remonter à 1980 pour en trouver les racines. À cette date, Vigdís Finnbogadóttir devient présidente, faisant d'elle la première femme au monde à être élue démocratiquement. Brynhildur Hómarsdóttir, directrice générale de l'association islandaise pour le droit des femmes, se souvient.
Vigdís a été élue quand j'avais 2 ans. J'ai donc grandi avec une femme présidente. Et ça signifie que pour moi, ma génération et la génération suivante, c'était normal d'avoir une femme chef d'État. Pour nous, ça a été en fait un bouleversement d'avoir soudainement un homme président.
Preuve que depuis, les femmes ont une place bien ancrée au plus haut niveau du pouvoir. Jóhanna Sigurðardóttir est élue en 2009 après la crise financière qui secoue l'île volcanique. Et depuis un peu plus d'un an, Katrín Jakobsdóttir incarne la tête du gouvernement d'un pays particulièrement instable politiquement ces dernières années, secoué par des scandales politico-financiers. Stefania Óskarsdóttir est professeure de sciences politiques à l'Université d'Islande.
C'est l'une des politiques les plus populaires en Islande, plus populaire d'ailleurs que le parti qu'elle représente. En tant que telle, elle est un excellent modèle pour les jeunes femmes et les enfants. Elle a également la réputation d'être une personne intègre. Certains de nos hommes politiques ont en effet été accusés de ne pas être dignes de confiance. Et elle n'a pas rencontré ce problème jusqu'à présent.
And she's not had to deal with that problem so far.
À 42 ans, cette ancienne journaliste, mariée et mère de 2 enfants, a su ramener une certaine stabilité grâce à un accord de gouvernement avec des alliés inattendus, les conservateurs du Parti de l'Indépendance et le Parti du Progrès de centre droit. Et tout cela grâce à son tempérament, selon Stefania Óskarsdóttir.
En termes de style de leadership, elle a souvent dit que les femmes sont plus douces et plus susceptibles de promouvoir le consensus et la coopération. Et il se pourrait bien que ce soit aussi son style. Elle se présente d'ailleurs comme quelqu'un qui essaie toujours de trouver un terrain d'entente.
La place des femmes en Islande devient un sujet majeur à partir de 1975. C'est une date importante car le 24 octobre de cette année-là, 90% des femmes quittent leur travail et 25 000 d'entre elles se retrouvent en centre-ville pour protester contre les inégalités hommes-femmes à l'occasion du Kvennafri, une journée de manifestation pour les femmes. Poussée par les mouvements féministes, la société islandaise se transforme. Mariana Trostadottir est spécialiste des questions d'égalité des sexes à la Confédération islandaise du travail et l'une des organisatrices de l'événement.
Avec des modèles tels que Vigdís Finnbogadottir ou les femmes au Parlement, vous avez de plus en plus l'habitude d'entendre les voix des femmes. Elles s'expriment sur des questions politiques ou des sujets importants de société. En fait, petit à petit, les femmes se sont fait une place avec leur propre manière de s'exprimer, de se comporter et de dire « je suis là ».
Here I am. Depuis 2017 et les dernières élections législatives anticipées, les femmes représentent 38% des députés siégeant au Parlement contre près de 50% lors de la législature précédente. Un chiffre en léger recul, mais la transformation est notable sur le long terme pour Brynhildur Hómarsdóttir de l'Association islandaise pour le droit des femmes.
Quand Vigdís a été élue présidente en 1980, le nombre de femmes au Parlement n'était que de 5%, un chiffre incroyablement faible, bien plus faible que dans les pays voisins. Et en l'espace de 40 ans, les changements ont été immenses, et Vigdís a joué un rôle majeur en cela, car elle a incarné un sentiment de possibilité pour nous en tant que pays, mais aussi pour les femmes de ce pays d'atteindre la plus haute fonction ou de simplement faire ce que nous voulons.
Difficile pour autant de définir un style de gouvernance bien précis à Vigdís Finnbogadóttir et Jóhanna Sigurðardóttir, dirigeante islandaise d'hier, ou Katrín Jakobsdóttir aujourd'hui. Stefania Óskarsdóttir, professeure de sciences politiques, s'explique.
J'ai une réticence à généraliser sur le comportement des femmes dirigeantes. Je crois qu'elles ont toutes des styles différents et que ce sont en fait les attentes des autres qui pourraient être spécifiques au genre. Les gens pourraient s'attendre à ce qu'elles ne soient pas à la hauteur de la tâche, trop tendres, et qu'elles aient besoin d'un homme fort sur lequel s'appuyer. C'est ce à quoi les femmes ont dû faire face quand elles sont devenues des dirigeantes. Ce genre d'idées fausses sur ce qu'elles peuvent faire et comment elles font leur travail.
Malgré son avance, des efforts restent néanmoins toujours à faire au pays le plus paritaire du monde. En 2016, selon les données d'Eurostat, la différence de salaire entre hommes et femmes en Islande était de 16,3%, soit dans la moyenne de l'Union européenne.
Dans la région, les Pays-Baltes également se distinguent. Ils ont toujours accordé une place politique importante aux femmes. Marielle Vitureau.
Qui dirige les 15 000 employés de la plus grande chaîne de supermarchés en Lituanie? Une femme. À la tête de la bourse financière des trois Pays-Baltes, encore une femme. La Lettonie bat même des records. Plus de la moitié des positions d'encadrement dans les entreprises sont occupées par des femmes. Et la liste pourrait être encore longue. Dans la région, les femmes ont de tout temps joué un rôle social et politique fort. En Lituanie, lorsque le pouvoir tsariste oblige à écrire avec l'alphabet cyrillique au XIXe siècle, ce sont les femmes qui apprennent à lire en lituanien aux enfants. Elles participent aux travaux des assemblées constituantes et dès que les trois Pays-Baltes gagnent leur indépendance en 1918, il y a 100 ans, les femmes obtiennent d'emblée le droit de vote parmi les premières en Europe. Et comme le relève la géographe Jurgita Matulite, lorsque l'Union soviétique s'effondre en 1991, ce sont les femmes qui font revivre l'espace rural exsangue après la collectivisation de l'agriculture. Aujourd'hui, les filles sont plus nombreuses que les garçons à poursuivre des études supérieures. Pour autant, dans ce domaine de l'égalité, rien n'est jamais complètement acquis. Il y a d'ailleurs une question à laquelle Kersti Kaljulaid, la présidente estonienne, refuse toujours de répondre.
Si quelqu'un me demande comment je fais avec mes quatre enfants, je dis toujours, écoutez, notre première ministre, il a quatre enfants aussi, et ils sont tous les quatre plus jeunes que mon troisième. Donc demandez-lui aussi. C'est pas vrai que vous continuez à demander à moi, mais pas à lui.
Face aux défis de la mondialisation et aux crises économiques, des voix de plus en plus conservatrices se font entendre. Le manque de places en crèche, les généreux congés parentaux ne favorisent pas un retour rapide des femmes sur le marché du travail. Et en Estonie, l'écart du salaire entre les hommes et les femmes est de 25%. C'est l'un des plus élevés d'Europe et il ne se résorbe que très lentement.
Sur la vingtaine de femmes chefs d'État et de gouvernement dans le monde, 10 sont des dirigeantes européennes. La République de Croatie dans les Balkans a ainsi élu pour la première fois une femme à la présidence, Kolinda Grabar-Kitarović. C'était en 2015, mais en 4 années de mandat, elle n'a jamais œuvré en faveur des droits des femmes. Au contraire, cette quinquagénaire dynamique promeut une vision patriarcale de la société, Simon Rico.
On l'a beaucoup vu cet été en Russie, vêtue du maillot à damier rouge et blanc pour soutenir les footballeurs croates lors de la Coupe du Monde. La très patriote présidente Kolinda Grabar-Kitarović se sent visiblement plus à l'aise pour défendre des causes nationales et sportives plutôt que celles des femmes. Ancienne secrétaire générale adjointe de l'OTAN, KGK, comme on la surnomme, incarne le renouveau de la droite ultra-conservatrice qui a le vent en poupe en Croatie. Farouchement anticommuniste, elle n'a jamais célébré la libération l'occupation du camp de concentration de Jasenovac, l'un des symboles de la lutte antifasciste pourtant inscrite dans la constitution croate. La quinquagénaire au sourire carnassier préfère parader aux commémorations du massacre de Bleiburg en hommage aux dirigeants croates pro-nazis tués en masse par les partisans du maréchal Tito à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une très proche de la très réactionnaire Église catholique croate qui multiplie depuis plusieurs années ses attaques contre l'homosexualité et le droit à l'avortement. Si l'intervention volontaire de grossesse est autorisée depuis les années 60 en Croatie, il est devenu difficile de trouver des médecins pratiquant l'IVG dans certaines régions du pays, et récemment une polémique a même éclaté après qu'une pharmacienne a refusé de délivrer sa pilule contraceptive à une adolescente. Au printemps dernier, Kolinda Grabar-Kitarovic s'était aussi alignée sur la position de l'Église qui refusait la ratification de la Convention d'Istanbul qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Motif invoqué, ce texte menaçait les valeurs traditionnelles de la société croate. C'est finalement grâce à l'engagement d'un homme, le Premier ministre Andrei Plenković, que le traité a été signé par les députés. À un an du terme de son mandat, la présidente croate prépare de longue date le terrain pour se faire réélire, avec une ligne claire, muscler son discours déjà très à droite pour se distinguer du chef du gouvernement plus modéré, mais fragilisé par des scandales de corruption.
Une femme au pouvoir, cela ne pousse pas forcément l'agenda féministe. Et la législation peut être progressiste, plus égalitaire, mais la société, elle, peut rester très patriarcale. Illustration à Lisbonne, au Portugal. L'association Femmes sans frontières organise des visites guidées, consacrées à l'histoire de la ville au féminin. Beaucoup de femmes se joignent à ces tours. Aucun homme jusqu'ici, Marilyn Darcy.
Le parcours suit l'artère principale de Lisbonne, l'avenue de la Liberté, et Alexandra saisira toutes les occasions de parler de ces femmes aussi importantes qu'ignorées.
C'est rare de voir les femmes dans la rue, réunies pour parler de femmes qui ont occupé la rue. Nous, nous voulons exhumer la mémoire historique, celle qui n'apparaît pas dans les livres. On fait des recherches et on sort dans la ville pour trouver les lieux qui ont compté pour le droit des femmes.
Dans le parc Édouard VII, Alexandra branche son ordinateur pour montrer un extrait du documentaire réalisé sur un temps fort de l'histoire contemporaine portugaise. Dans les années 70, trois femmes avaient annoncé leur intention de brûler des symboles, des attributs traditionnels de la femme, mère au foyer, fiancée ou vampe. Les choses avaient failli mal tourner face à l'agressivité masculine. Alexandra considère que la société est encore très frileuse.
C'est une société machiste et raciste, mais je dirais de manière subtile. En apparence, elle ne l'est pas. Et d'ailleurs, du point de vue législatif, on est plutôt progressiste. Mais au quotidien, c'est différent. Les femmes restent à la maison, confinées dans un rôle traditionnel, en raison de la division des genres. Le machisme se retrouve au travail, dans la culture, un peu partout. Être dans la rue comme ça aujourd'hui, ça peut déranger. Mais c'est bien pour ça que nous y sommes.
Sur le parcours, on croise une actrice de cinéma, une héroïne des débuts de la République, le 5 octobre 1910, d'autres féministes. Aucun homme, jusqu'à présent, n'a pris part autour d'Alexandra. Mais elle est persuadée que les choses vont finir par bouger. Son association a obtenu des fonds pour élargir le nombre de tours consacrés à l'histoire au féminin.
Moi, j'étais mieux à l'Est. Sans toi, pour me corrompre, j'étais mieux à l'Est.
Catherine Roland part à la recherche d'un pays disparu en 1990, l'ex-République démocratique d'Allemagne. À travers les pages du livre de l'historien Nicolas Offenstadt, le pays disparu sur les traces de la RDA, c'est paru chez Stock. L'ancienne Allemagne de l'Est a laissé peu de traces aux grandes dames de ses habitants. 30 ans après la réunification, l'historien restitue ce passé est-allemand à travers les friches et les ruines.
En faisant l'unification de l'Allemagne, on n'a pas fait une unification en réalité. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui a absorbé et qui a transformé complètement l'Allemagne de l'Est. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, toute la culture socialiste, toute la culture du travail socialiste, toute la culture du loisir socialiste a complètement disparu. Alors évidemment, il y a des choses que les gens ne regrettent pas, mais il y en a aussi qui regrettent, parce que là-dedans, il y avait la solidarité, il y avait beaucoup disent qu'ils avaient l'habitude de faire beaucoup plus de choses ensemble, il y avait un lien social plus intense, on allait au théâtre. Donc il y a énormément de manières de vivre ensemble qui ont aussi disparu avec la RDA. Et ça, évidemment, ça pose des questions aujourd'hui.
Oui, il y avait aussi le plein emploi, on l'oublie souvent.
Bien sûr, les gens travaillaient et puis surtout, ils étaient beaucoup plus protégés socialement puisque le socialisme de la RDA est évidemment un socialisme autoritaire, un socialiste répressif, mais c'était aussi un socialiste qui protège. Il y avait la main gauche et la main droite. Hein. C'était le fait que même quand vous n'étiez pas adapté à votre emploi, on vous en trouvait un autre et puis on ne vous renvoyait pas. C'était évidemment les soins et l'école gratuite. Donc oui, c'est tout un monde qui disparaît. Et ça, ça a été un choc hein, pour les Allemands de l'Est après 1990. Alors, ils étaient sans doute très désireux de découvrir la consommation de l'Ouest, de découvrir la possibilité d'achat. Mais ils ont vu aussi qu'ils perdaient énormément de ce qui avait constitué leurs identités, leur manière de vivre, pour le meilleur et pour le pire.
Vous avez mené un travail d'historien d'abord classique en fouillant les archives, bien sûr, mais vous êtes aussi rendu dans les lieux abandonnés, les usines, qui sont devenues de véritables friches, en fait.
Je suis allé voir pourquoi est-ce que ces lieux étaient abandonnés, qu'est-ce qu'on y trouvait à l'intérieur. Et là, évidemment, les surprises ont été multiples. Vous trouvez d'abord des objets. Et moi, j'ai trouvé intéressant d'essayer de reconstituer l'histoire de ces objets. Donc, j'en ai ramassé. J'ai essayé de comprendre dans quel environnement vivaient les gens et ce que ces objets nous racontent sur l'histoire de la RDA. Mais il y a aussi un passage sur les archives. Alors, du personnel, parfois du Parti communiste dans l'entreprise, parfois des archives médicales. Donc, il y a un monde documentaire pour raconter l'histoire des Allemands au XXe siècle, d'ailleurs.
Oui, mais vous en profitez d'ailleurs pour dresser de véritables portraits juste à partir de ces documents écrits.
Oui, j'ai décidé à partir de certains d'entre eux que j'avais vraiment ramassé par terre hein, dans les usines de raconter la vie. J'ai raconté la vie d'un chauffeur de Schwerin, hein, du nord de l'ex-RDA, et j'ai raconté l'histoire notamment d'une comptable, hein, Heidrun, qui elle était de Saxe. Donc vous voyez, à partir de ça, j'ai montré que des archives abandonnées, c'est pas simplement des bouts de papier dans la boue, c'est aussi un potentiel pour l'historien.
La RDA, on la retrouve aussi dans les brocantes. D'ailleurs, vous dites hein, que c'est un pays de brocantes désormais.
Il faut imaginer ce qui s'est passé dans les années 90 et post-90. Tout a été délégitimé. Tous les objets RDA paraissent pas concurrentiels par rapport à ce qui se fait à l'Ouest. Et donc, du coup, on abandonnait tout ce qui était un peu ringard, tout ce qui n'était considéré comme pas beau, symbole du socialisme. Et donc, on pouvait récupérer, effectivement, dans la rue, beaucoup de choses, hein, dans le post-90 et encore aujourd'hui.
En même temps, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une espèce de retour à la mode de la RDA, des barres chocolatées, des cigarettes de l'époque, c'est un peu kitsch. Est-ce que ça nourrit pas aussi une forme d'ostalgie, la nostalgie de l'Est?
Il y a aussi, évidemment, une nostalgie particulière, hein, c'est que, évidemment, comme la biographie de beaucoup de ces Allemands de l'Est a été très dévaluée, que c'est aussi le temps de leur jeunesse, hein, il y a un revival qu'on voit depuis des années de produits de l'Est. Et d'ailleurs, certains ont été recréés, c'est-à-dire des marques qui avaient disparu reviennent. C'est des marques de cigarettes, des marques de chocolat. Hein. Et donc, on a qualifié ça effectivement d'ostalgie. Ce qui, à mon avis, est pas un bon terme parce que il y a pas d'ostalgie au sens où on voudrait revenir, hein, aux produits de l'Est, à la vie à l'Est. Mais par contre, hein, il y a une appréhension de son passé qui est un peu plus complexe. Les gens, si vous voulez, regardent aujourd'hui le passé en faisant un bilan qui est plus nuancé, en se rappelant qu'il y avait des choses qui leur avaient plu. C'est pour ça que moi j'ai parlé plutôt que d'ostalgie d'un bricolage identitaire qui oblige à regarder le passé de manière complexe.
Comment ils vivent vraiment ces ex-Allemands de l'Est, cette disparition? Le fait qu'il y a tout un pan de leur passé qu'on nie désormais.
Vous voyez, c'est quand même assez dur à supporter cette idée que tout ce qu'on a fait l'a été sous le sceau d'un socialisme autoritaire et inefficace. Et donc du coup, effectivement, les Allemands de l'Est ont une forme de fragilité, à la fois symbolique et personnelle, puisque dans l'Allemagne contemporaine, il y a un peu l'idée que tout ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est, ben, c'était encore une fois l'échec économique, la répression politique. Or, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui n'était pas un opposant en Allemagne de l'Est, quelqu'un qui travaillait correctement, pouvait tout à fait avoir une vie qui lui plaise.
Oui, les ex-Allemands de l'Est, d'ailleurs, vous le dites, hein, qui ont l'impression souvent d'être des citoyens de seconde zone. D'autant que, du point de vue de l'économie, hein, il y a vraiment deux Allemagnes. En Allemagne de l'Est, on constate un taux de chômage malgré tout plus élevé. Économiquement, cela va moins bien.
Les élites en général en Allemagne sont celles de l'Ouest. Et même à l'Est, les élites sont celles de l'Ouest, donc il y a aussi l'impression d'être dominé, voire colonisé, on emploie ce terme parfois, hein, y compris en allemand. Donc l'idée d'avoir été colonisé par l'Ouest, c'est quelque chose qui est très vécu. Et l'autre, vous avez raison, c'est que les salaires sont très différents. Un certain nombre de catégories professionnelles se sentent encore victimes d'injustice depuis l'unification. Et puis il y a aussi un sentiment qui est très important à comprendre. Donc vous voyez, la perte démographique a été colossale et a eu des conséquences très importantes. Hein. Or qu'est-ce que ça a pour conséquence? L'abandon des services publics qui avaient été construits pour un monde qui était quand même plus dense. La première police ou le premier médecin est à 30 ou 40 kilomètres, ça crée un sentiment aussi de faiblesse et de précarité qui est très vécu. Et ce sentiment-là, évidemment, l'AFD sait l'exploiter, l'extrême droite sait l'exploiter en disant, ben oui, nous, on va vous redonner hein, une forme de fierté, on va vous redonner une dignité.
Souvenir de l'ancienne Allemagne de l'Est, conséquences pour l'Allemagne d'aujourd'hui avec l'historien Nicolas Offenstadt et Catherine Roland. Le livre de Nicolas Offenstadt, Le pays disparu sur les traces de la RDA, est publié chez Stock. Accent d'Europe avec à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez, vous nous réécoutez sur internet, le site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve ici demain à la même heure.